Docteur Wack, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien-dentiste omnipraticien qui s'est spécialisé en implantologie et parodontologie.
Oui, depuis quelques années, effectivement, après de l'omnipratique, j'axe beaucoup plus mes traitements pour mes patients vers l'implantologie, les réhabilitations sur implants et la parodontologie.
Docteur Wack, qu'est-ce qu'un implant?
Un implant dentaire, pour, disons, schématiser, est une racine artificielle qui va remplacer la racine de la dent que le patient a perdue. Une racine artificielle pourra remplacer donc une dent, et lorsqu'on aura perdu plusieurs dents, il faudra quelquefois mettre plusieurs racines artificielles.
Quelles sont les questions qui sont posées par vos patients en général, docteur?
Lorsqu'un patient vient nous voir, souvent les mêmes questions reviennent au niveau des implants dentaires ou de ces racines artificielles, comme on a dit précédemment. C'est est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il y a un risque de rejet? Est-ce qu'on a une garantie qu'on va avoir un résultat à 100%? Et c'est toujours les mêmes questions. Et souvent, c'est vrai que les praticiens devront répondre à ces questions.
Docteur Wag, en implantologie, y a-t-il des rejets et quelles sont les garanties de résultats en ce qui concerne ces implants?
Alors sur la question rejet, tout d'abord, on peut dire qu'il n'y a pas de rejet au niveau de l'implantologie dentaire moderne. Les implants tels qu'ils sont à notre disposition sont des implants parfaitement tolérés par l'organisme humain. Donc le terme rejet est un terme impropre. En ce qui concerne les résultats, comme en chirurgie générale, aucun chirurgien ne pourra dire à son patient, nous vous garantissons 100% de réussite pour telle intervention en ce qui concerne du résultat. Donc au niveau de l'implantologie, lorsqu'on mettra des implants sur un patient, ben là aussi on pourra lui dire que d'après les résultats obtenus dans notre propre clientèle et par tous les praticiens qui travaillent comme nous, les résultats sont aux alentours de 98-99% de réussite, ce qui est déjà bien. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un petit aléa avec si vous tombez dans les 1% ou 2%. Qu'est-ce que c'est ce problème-là? Quel est ce problème? Le problème va être, disons, un retard de cicatrisation et non pas un échec. C'est-à-dire que si un implant, lorsqu'on doit le préparer pour placer la prothèse dessus, ne nous paraît pas suffisamment stable au niveau de l'os, on va demander au patient d'être un peu plus patient, entre guillemets, c'est-à-dire d'attendre un petit peu plus longtemps, peut-être quelques semaines de plus, pour que notre implant gagne un peu plus en stabilité afin de placer la prothèse dans de bonnes conditions. Et dans le pire des cas, c'est de dire au patient, ben, l'implant n'est vraiment pas suffisamment stable et l'os ne s'est pas suffisamment bien cicatrisé autour. Je vous propose de changer votre implant et là aussi, ben, d'être un petit peu plus patient, d'attendre un petit peu plus longtemps, bien entendu, sans lui demander en aucune manière une compensation financière pour un échange d'implants ou pour une attente plus importante de quelques semaines. Ça, c'est très important.
Docteur Wag, tout le monde peut-il avoir une réhabilitation sur un plan?
Pour répondre à cette question, on va dire que tout le monde, on pourrait dire presque de 7 à 77 ans, mais ce ne serait pas tout à fait juste, on va dire tous les patients qui ont fini leur croissance, c'est-à-dire on va dire entre 16-18 ans suivant les garçons et les filles, peuvent avoir des réhabilitations sur implants et on peut aller, j'ai des patients que j'ai placé des implants à des patients de 85, 80 jusqu'à 90 ans. Donc vous voyez qu'en fait, ce n'est pas une question d'âge. Deuxième chose, c'est l'état général du patient. Bon, bien entendu, des patients qui ont un passé relativement lourd, ceux-là vont peut-être exclus, on va leur dire que ce ne serait pas tout à fait judicieux. Mais même des patients, si ils sont bien suivis par leur médecin généraliste, par leur cardiologue, etc., avec l'aval, bien entendu, de leur médecin généraliste ou de leur cardiologue, ou de leur endocrinologue, etc., on pourra placer des implants sur ces patients-là.
Quel est le bilan préimplantaire qui doit être effectué?
Alors, suite à la précédente question, c'est un peu la suite. Donc, on a dit déjà un bilan sur l'état général du patient. Deuxième chose, ensuite un bilan beaucoup plus précis dans la zone où on veut envisager la pose de ces implants. Le bilan va être un bilan endobuccal, c'est-à-dire au niveau de la gencive, mais aussi au niveau de l'os. puisqu'il faut avoir des notions très précises sur l'anatomie osseuse, gingivale, vasculaire de la zone où on veut mettre les implants, il sera nécessaire et je vais dire obligatoire d'avoir un bilan précis radiographique par un scanner. C'est la seule solution, la seule possibilité d'avoir des précisions sur la qualité de l'os, le volume osseux et tous les éléments anatomiques dans la zone où on veut envisager des implants. À partir du moment où vous avez ce bilan, là, vous pouvez dire au patient « oui, je peux » ou « non, je ne peux pas vous mettre des implants ». Bien entendu, il y aura toujours des solutions si on a un support osseux plus faible avec des solutions plus lourdes comme des greffes osseuses, des reconstructions osseuses, mais on part après dans des plans de traitement plus importants, plus lourds, que le patient peut accepter ou refuser. Mais là aussi, il n'y a pas eu de grosses contre-indications dans ce genre de problème.
Docteur Wag, tous les implants sont-ils équivalents? Et aussi, deuxième question, dans quel lieu, à votre avis, une chirurgie de pose d'implant doit-elle être faite?
Cette question est très importante parce qu'on se trouve à l'heure actuelle aujourd'hui avec une multitude de firmes présentant des implants plus ou moins semblables, on va dire. Et les praticiens déjà ont des difficultés à choisir leur implant et les patients qui ne sont pas trop au courant ont des difficultés à savoir quel type d'implant ils acceptent qu'on leur place dans la bouche. On va dire aujourd'hui, pour ne pas les nommer, qu'il existe 5-6 grandes firmes auxquelles on peut faire confiance pour les implants dentaires. Pourquoi ? Parce que ces firmes auront un suivi important. D'abord, ils découlent pratiquement toutes de la même base que le professeur Brandmark nous a donnée dans les années 60, 70 et 80. La même histoire de l'implantologie dentaire moderne. Et ces firmes-là, on peut leur faire confiance parce qu'ils ont sorti des composants fiables, stable, durable dans le temps, avec un suivi, c'est-à-dire qu'un patient qui aurait le moindre souci quelques années plus tard, ben, il pourra avoir quelque chose qui pourra être arrangé, modifié, transformé, sans pour cela se retrouver avec un grand point d'interrogation en disant qu'est-ce que je peux faire avec mes implants et comment on va pouvoir m'arranger mon problème. Donc ça c'est important, savoir, il faut que le patient sache quel est le type d'implant on va lui placer et pourquoi le praticien choisit celui-là plutôt qu'un autre. La réponse à la deuxième question, dans quelles conditions doivent être placés les implants dentaires? Il faut savoir que placer un implant dentaire, c'est un acte chirurgical. On va placer quand même un objet étranger dans l'os, dans un organisme humain. Ça veut dire que ça doit être fait dans les meilleures conditions possibles au niveau de l'asepsie, de la stérilisation. Il est certain que peut-être tous les praticiens ne peuvent pas disposer d'un bloc chirurgical, mais à partir du moment où le praticien qui pose les implants est vraiment motivé et conscient de ce qu'il fait, il le fera dans de bonnes conditions et il le fera dans les meilleures conditions pour son patient. Donc je pense que c'est vrai qu'il faut être sérieux dans son travail, comme je pense le sont la plupart des praticiens chirurgiens-dentistes qui font ça, et pratiquement tous ceux que je connais le sont, ils sont très très conscients de ce qu'ils font. Donc ça doit être fait dans les meilleures conditions, surtout d'asepsie et de stérilisation. Et le patient peut très bien, ça nous arrive quelquefois, le patient demande mais à quel endroit et comment vous allez mettre les implants. Et il faut pouvoir lui expliquer, lui montrer comment on fait notre pose d'implant et l'acte chirurgical, comment il va se dérouler. Ça, c'est très important.
Docteur Wag, quel est le suivi que le patient doit apporter à la réhabilitation implantoprothétique qu'il a eue?
On a parlé de plusieurs choses très importantes. Le bilan préimplantaire, l'acte chirurgical, la réhabilitation prothétique, le suivi post-réhabilitation est aussi important que tous les autres points développés auparavant. Quelle que soit la réhabilitation prothétique que vous allez avoir en bouche, qu'elle soit sur vos dents naturelles ou sur des implants, pour moi le suivi doit être identique. D'abord un suivi quotidien du patient, une hygiène assez rigoureuse, comme normalement il doit avoir pour ses dents naturelles comme pour ses prothèses. Deuxième chose, c'est un suivi professionnel. On va dire qu'on conseille à nos patients de revenir tous les 6 mois, faire un contrôle professionnel qui va nous permettre de vérifier l'état des prothèses, l'état de l'équilibre occlusal, et ça c'est important, un organisme ne reste pas stable de la naissance jusqu'à la disparition de la personne. Il y a une évolution qui se fait, et au niveau de la bouche, au niveau de l'équilibration occlusale, il y a des choses qui évoluent. Donc il faut rééquilibrer. La prothèse a été faite avec une certaine stabilité à un moment T, peut-être quelques mois, quelques années plus tard, cette stabilité peut être modifiée. Si cette stabilité se modifie et qu'il n'y a aucun contrôle de fait, on peut avoir une répercussion au niveau de l'os qui soutient les implants. Ce n'est pas l'implant lui-même qui va casser, qui va lâcher, mais c'est l'os qui soutient l'implant qui peut avoir un problème et qui peut lâcher autour de l'implant. L'implant lui-même ne cassera pas, mais c'est son support osseux qui doit être surveillé. Donc, un contrôle quotidien par le patient, un contrôle professionnel tous les 6 mois par le praticien.
Docteur Wack, je vous remercie.
Merci beaucoup.